Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'écouter La Voix de l'Indonésie à Jakarta. Comme d'habitude, nous allons commencer notre émission par le journal suivi la roue de presse. Et ensuite, l'histoire d'aujourd'hui est la mise au point. La rubrique suivante, magazine culturel et l'Indonésie en couleur. Avant de terminer cette émission, comme d'habitude, nous allons présenter des chansons indonésiennes. Voilà notre programme pour ce soir. Écoutons maintenant le journal suivi la roue de presse.
La Voix de l'Indonésie, les informations.
Merci d'être fidèle à La Voix de l'Indonésie à Jakarta. Chers amis, voici le journal et on commence avec les titres. Les relations bilatérales entre l'Indonésie et la Belgique progressent significativement. Avec une gestion facile de l'extension du visa en Égypte, les étudiants indonésiens profitent du programme de visa collectif. L'ASEAN et l'Inde sont les générateurs économiques mondiaux. Le Mexique accède des avions N219 et des radioisotopes produits par l'Indonésie. La semaine prochaine, l'Indonésie reçoit 35 figures afghanes. Chers amis, nous présentons maintenant le journal complet. Au cours des dernières années, les relations bilatérales entre l'Indonésie et la Belgique ont considérablement progressé. C'est ce qu'a déclaré le ministre indonésien de la Recherche, de la Technologie et l'Enseignement supérieur, M. Muhammad Nasir, dans son discours à l'occasion de la commémoration de la fête du roi à la résidence belge, Jakarta, jeudi 16 novembre. Le ministre a déclaré que la coopération entre les deux pays avait également augmenté dans divers secteurs, parmi lesquels l'éducation supérieure et la culture. Nous voyons des progrès significatifs dans nos relations bilatérales. Notre coopération a grandi et a été renforcée dans de nombreux secteurs importants et d'investissement, de l'éducation, l'enseignement supérieur, la culture et des contacts interpersonnels. Selon le ministre Muhammad Nasir, tous ces progrès dans les relations bilatérales ont été réalisés grâce au grand engagement du gouvernement indonésien et belge à intensifier diverses coopérations, y compris dans les années à venir. L'un de ces engagements avait été prouvé par la visite du vice-président indonésien M. Yusuf Kalla en Belge en octobre, ainsi que par la participation de l'Indonésie à Europalia, qui se tenait à Bruxelles, en Belgique. Un visa collectif de l'ambassade d'Indonésie au Caire, l'Égypte, est toujours utilisé par les étudiants indonésiens. Le premier secrétaire du protocole et du consulat de l'ambassade d'Indonésie, Nini Rahayu, a déclaré que la facilité de visa collectif est de faciliter les étudiants dans la gestion de leur extension de visa. Il a expliqué que 20 jusqu'à 30 étudiants utilisent cette installation chaque semaine. Cependant, la facilité de visa collectif a été commencée depuis 2012. Les étudiants sont chargés 90 livres égyptiennes ou 70 000 rupiahs pour obtenir l'extension de visa pour un permis de séjour d'un an, tandis que l'équipe des visas collectifs qui administre directement l'extension du permis de résidence en Égypte était composée de 9 étudiants seniors et des représentants des consulats indonésiens en Égypte.
Setelah ada inisiatif ini, pihak imigrasi itu setuju kalau yang urus semua...
Appreciate initiative les autorités de l'immigration ont convenu que l'autorité qui gère le processus ICOMA ou de permis de séjour et l'ambassade d'Indonésie ou KBRI en tant que représentant qui s'occupe à l'immigration. Cela dépend aussi de l'administration de l'Égypte parce qu'il faut nécessiter l'autorisation de la sécurité nationale si elle a besoin d'au moins une semaine, un mois, trois ou quatre mois. Nous ne pouvons pas intervenir. Nous simplifions seulement la gestion de sorte que les étudiants n'ont pas besoin de faire l'acquis dès la première heure. Nini Rahayu a déclaré que la réglementation du permis de séjour par les autorités égyptiennes aux ressortissants étrangers devrait être une préoccupation sérieuse pour les étudiants indonésiens. Selon elle, surtout pour ceux qui ont dépassé le délai, doivent immédiatement prendre immédiatement soin de son extension. Cependant, la sécurité nationale égyptienne a transmis à l'ambassade d'Indonésie au Caire pour informer aux citoyens et aux étudiants indonésiens de porter toujours leur passeport ou autres documents personnels lors des activités de plein air. Le gouvernement égyptien prolonge périodiquement le statut d'urgence tous les trois mois, d'octobre jusqu'à décembre 2017. Le président indonésien Joko Widodo a déclaré que l'ASEAN et l'Inde avaient un énorme potentiel pour devenir l'un des générateurs économiques mondiaux en raison d'un marché commun qui a atteint 2 milliards de personnes et un produit intérieur brut de 4,5 milliards de dollars américains. Cela a été transmis par le président Joko Widodo lors du 15e sommet ASEAN-Inde auquel a également participé par le Premier ministre Narendra Modi de l'Inde à Mani, aux Philippines, récemment. Cette déclaration du président a été citée par le député des affaires de protocole, la presse et le secrétaire des médias du président, M. Bey Mahmoudine. L'Indonésie a également apprécié les progrès de la coopération entre l'ASEAN et l'Inde pendant 25 ans. Le président a rappelé que jusqu'à présent, le monde était encore éclipsé par l'incertitude. Donc l'ASEAN et l'Inde doivent intensifier la coopération du renforcement de l'architecture de sécurité régionale et la coopération maritime. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Le Mexique a convenu d'acheter des avions N219 et des radioisotopes produits par l'Indonésie. Cet accord a été conclu lors du forum consultatif bilatéral des deux pays, organisé par le ministère mexicain des Affaires étrangères à Mexico. Lors du 16e forum consultatif bilatéral, la délégation indonésienne, présidée par le directeur général de l'Amérique et de l'Europe, l'ambassadeur Mohamed Ansor, a déclaré que le forum était axé sur le développement de la coopération économique. C'est ce qu'a affirmé le responsable des informations socioculturelles de l'ambassade d'Indonésie au Mexique, Febi Fahrani, à Antara. Le chef de représentant indonésien au Mexique, l'ambassadeur Yusra Khan, a déclaré que cette coopération ouvrait la voie à une coopération plus large entre l'Indonésie et le Mexique dans le domaine de l'espace aérien, notamment avec l'État fédéral Chihuahua, qui développe des compagnies aériennes régionales sur son territoire. Le vice-président indonésien Yusuf Kalla a déclaré que la semaine prochaine, l'Indonésie recevrait 35 fuyards afghans. Ils viennent pour apprendre la paix en Indonésie. Yusuf Kalla a déclaré jeudi à Jakarta que c'était normal que d'autres pays veulent apprendre de l'Indonésie comme maintenir l'harmonie au milieu de la pluralité existante. Comme par exemple, on a été invité à la consultation nationale de l'Église protestante dans l'est de l'Indonésie. Il y avait 700 prêtres. Il a parlé en tant que président du conseil de la mosquée par de l'harmonie. Et selon Yusuf Kalla, l'harmonie créée en Indonésie ne peut pas être séparée de la tolérance qui a été construite jusqu'à présent. Chers amis, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la roue de presse et nous commençons avec l'éditorial du journal Kompas le jeudi 16 novembre ayant pour titre « Croissance de qualité ». Le Fonds monétaire international prévoit que l'économie indonésienne en 2018 pourrait croître à 5,3% si le gouvernement maintient sa dynamique de croissance. Les estimations des institutions financières mondiales sont encourageantes parce qu'il y a des craintes que l'Indonésie connaîtra une croissance stagnante d'environ 50%. Cette année, la consommation publique a ralenti après plus de 10 ans en tant que moteur de la croissance économique. Louis Breuer, chef de la mission du Fonds monétaire international en Indonésie, a déclaré que l'augmentation de plus de 5% est un soutien à la politique monétaire pour stabiliser les prix et stimuler la croissance économique. La durabilité de la croissance est déterminée par la réforme fiscale, la production, le travail et les marchés financiers. Selon Kompas, les responsables de la politique économique de certains pays choisissent d'assouplir les impôts pour encourager la croissance des activités commerciales, notamment pour le projet pilote. Kompas écrit que l'Indonésie compte sur les taxes pour financer le développement et que les options politiques consistent à choisir le meilleur parmi un certain nombre d'alternatives disponibles. Nous terminons la revue de presse avec le journal Sindo dans son éditorial jeudi 16 novembre a écrit « Alerter l'inondation ». Dernièrement, plusieurs régions d'Indonésie sont touchées par les inondations. Il n'est pas trop difficile de trouver les causes des inondations dans différentes régions d'Indonésie, entre autres la perte des zones d'absorption des eaux, le rétrécissement des rivières et la pollution des rivières, y compris les transferts de terre, dont la principale raison est utilisée pour les besoins du logement. En outre, selon le journal Sindo, pour éviter les inondations, il y a plusieurs choses qui ont besoin d'attention, entre autres la normalisation des canaux d'eau environnementaux. Par conséquent, la participation de la communauté est très importante. Chers amis, c'était la revue de presse de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Radio République Indonésie, service international, la Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésie, service international, la Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonésie, service international, la Voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz. Le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'internet sur www.voi.co.id.
Chers amis, nous continuons notre émission avec l'histoire d'aujourd'hui, le 19 novembre. Le 19 novembre 1912, Kiai Haji Ahmad Dahlan a créé Muhammadiyah à Yogyakarta. Muhammadiyah est l'une des plus grandes et la plus influente organisations religieuses en Indonésie, fondée par Kiai Haji Ahmad Dahlan. Il est le pionnier et le père de la réforme islamique. Muhammadiyah est une organisation sociale et religieuse qui travaille dans le domaine de l'éducation. L'objectif principal de Muhammadiyah est de restaurer toutes les déviations qui se produisent dans le processus de dakwah. Le mouvement de Muhammadiyah se caractérise par un esprit de construction d'un ordre social plus avancé et d'une société éducative. Montrer les enseignements de l'islam n'est pas seulement une religion personnelle et statique, mais dynamique et domiciliée comme un système de la vie humaine sous tous ses aspects. Le 18 novembre 1956, l'indépendance du Maroc de la France. En 1912, le Maroc est devenu un territoire de protectorat français et une petite partie de son territoire a été occupée par l'Espagne. La lutte pour l'indépendance totale continue d'être menée par le peuple marocain, que ce soit par la négociation ou la guerre. Sur la façon de la guerre, le Maroc était toujours échoué parce que l'armée française est plus avancée. Après avoir lutté de diverses manières, le Maroc a finalement accédé à l'indépendance le 18 novembre 1956. Le 19 novembre 1968, Bengkulu est devenu la 26e province indonésienne. La zone qui s'appelle maintenant la province de Bengkulu était à l'origine le territoire de plusieurs petits royaumes. Des années 1685 jusqu'à 1824, Bengkulu s'inclut dans l'une des régions colonisées d'Angleterre. Au cours de la période coloniale hollandaise, en 1824 jusqu'en 1942, il y avait un système culturel de travail des corvées, une collecte des impôts, une exploitation des miniers d'or à Rejang-Lebong et des différences de classe entre indigènes, les Européens et les Chinois. Bengkulu a également été utilisé comme lieu d'exil de Sukarno par le gouvernement colonial néerlandais pendant la guerre pour atteindre l'indépendance de l'Indonésie. Après la proclamation de l'indépendance en 1945, l'ensemble du territoire du royaume dans cette région a changé son statut de résidence dans la sphère administrative de la province de Sumatra du Sud. Bengkulu a finalement fait sa propre province le 18 novembre 1968. Chers amis, voilà l'histoire d'aujourd'hui.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Chers amis, nous continuons notre émission avec la mise au point et en sous-titre. L'Indonésie et le FMI sont mis d'accord sur la réforme fiscale. Le Fonds monétaire international FMI a projeté la croissance économique d'Indonésie d'un montant de 5,1% cette année et 5,3% pour l'année prochaine. Les projections du FMI sont le résultat d'une visite d'équipe du FMI dirigée par Louis E. Brewer en Indonésie du 1er au 14 novembre. Brewer considère que l'économie indonésienne s'améliore régulièrement, soutenue par des politiques macroéconomiques prudentes, une croissance mondiale accrue et des prix des matières premières ainsi que des efforts continus pour renforcer la compétitivité. Cependant, Brewer considère que les risques domestiques proviennent principalement des recettes fiscales. Par conséquent, une réforme fiscale est nécessaire pour créer un meilleur espace budgétaire. Le ministre des Finances Sri Mulyani Indrawati a approuvé la contribution du Fonds monétaire international. Lors de sa rencontre avec Compass.com, au siège de la Direction générale des impôts, mercredi 15 novembre, Sri Mulyani a expliqué « L'une des preuves de la réforme fiscale est le résultat de la coopération entre le Directorat général des impôts et le Directorat général des douanes et accises. Il inclut des données sur les recettes fiscales provenant des droits et des droits d'accises qui ont dépassé les attentes qui ont visé 1,9 trillion rupiah d'être 2 7 triliun rupiah. Répondant aux projections du FMI, le ministre des Finances Sri Mulyani Indrawati a déclaré qu'elle examinerait la base de la projection. Si la base est la consommation des ménages qui est inférieure aux attentes, le gouvernement se concentrera sur le maintien de la croissance des investissements et des exportations. Elle espère que cela encouragera les revenus futurs afin que la consommation des ménages s'améliore. En plus des risques domestiques, l'équipe du FMI voit également une série de risques externes sous la forme de la croissance économique des partenaires commerciaux indonésiens, les tensions politiques chinoises lentes dans la région. Le resserrement des conditions financières mondiales peut également entraîner des taux d'intérêt antérieurs ainsi que le renversement des capitaux étrangers. Par conséquent, l'équipe du FMI a proposé que le gouvernement indonésien fasse une combinaison de politiques à court terme pour faire face à la condition. Du point de vue budgétaire, le FMI a estimé que le gouvernement indonésien avait conçu la bonne politique budgétaire en rétablissant le coussin budgétaire en réduisant le déficit budgétaire en 2018. Du point de vue monétaire, le FMI encourage la politique à continuer d'être orientée non seulement pour maintenir la stabilité des prix, mais aussi pour soutenir la croissance économique. En outre, le FMI apprécie la politique de Banque Indonésie qui n'intervient pas excessivement contre le taux de change de rupiah. Relié au système financier, le FMI a estimé que le système bancaire est bien capitalisé, la rentabilité élevée et la liquidité de l'ensemble du système est assez. Non seulement cela, les prêts problématiques se sont stabilisés. Cependant, un suivi strict est nécessaire car les prêts avec des détails spéciaux et des prêts restructurés restent élevés. Cher ami, c'était la mise au point.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Bonsoir, chers amis, vous écoutez La Voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Maintenant, nous allons présenter le magazine culturel intitulé Le mini monument Équateur dans la province des îles de Riau. À l'équateur, le soleil est juste au-dessus de la tête à midi, de sorte que la même durée du jour et de la nuit tout au long de l'année, soit 12 heures. Cette ligne traverse la terre et les eaux territoriales des 14 pays, y compris l'Indonésie. L'Indonésie est le pays avec la ville ou l'île la plus largement traversée par l'équateur. L'île de Lingga est l'une des régions d'Indonésie qui est passée par l'équateur. L'équateur passe le point nord de l'île dans la province des îles de Riau. Comme on signe que cette île est passée par l'équateur, le gouvernement local construit un monument nommé le Petit Monument Équateur. Ce monument est situé à l'arrière d'une colline, face à une île et administrativement située à Tanjung Teludas, le village de Mentuda, le quartier de Lingga. Le petit monument Équateur est également devenu une icône du tourisme de la région de Lingga. La plupart des touristes étrangers, surtout en provenance d'Europe, viennent à ce monument pour essayer la sensation de se tenir sur le point de 0 degré d'altitude. « Le mini-monument Équateur a été construit en 2008. Il est d'environ 5 mètres de haut avec une largeur d'environ 2 mètres. Au sommet, il y a une réplique de globe. Au milieu, il y a des flèches et des bouts en crise. Toute la surface est revêtue d'une couleur jaune d'or. La fondation du monument est faite de ciment moulé et recouverte de céramique et de peinture beige et verte. Sur sa côté, il y a un logo et le slogan de la régence de Lingga, à savoir Bertingkap Alam Berpintu Ilahi. De ce monument, vous pouvez très bien regarder la mer et le village de pêcheurs. Le monument est situé assez loin du centre-ville de Dalik, la capitale de la régence de Lingga. Vous devez prendre une voiture vers le port de Seitenam. Et ensuite, il faut être continué en prenant le Kepompong. C'est un bateau traditionnel local à travers le détroit de Tanjung Kelit. Après le trajet de 10 minutes en bateau, vous arriverez à la plage de Tanjung Teludas. Vous devez aussi marcher le long du chemin vers le mini monument. Chers amis, c'était notre programme culturel, le magazine culturel de la Voix d'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Les couleurs, un programme sur les informations actuelles. Bonsoir à tous, nous continuons notre émission avec l'Indonésien couleur. Aujourd'hui, nous discutons sur la façon de chasser aux baleines des pêcheurs de la Malera à Nusa Tenggara Est. Si au Groenland, au Canada, ou autour du pôle sud, il existe une tradition de chasse aux phoques et aux pingouins, l'Indonésie a aussi une tradition de chasse à la baleine. La Malera, un village situé dans l'arrière-pays de la régence Lembata, à Nusa Tenggara Est, est renommé comme le village des baleiniers. Chaque année, le village organise une tradition de chasse à la baleine en pleine mer autour de la mer de Flores, de la mer Savu et du détroit La Malera jusqu'au détroit Alor. La tradition de la chasse à la baleine se fait à Lembata uniquement en utilisant des bateaux et des lances traditionnelles. Les baleines chassées sont généralement un type de cachalot. La tradition Lembata est assez surprenante, car la baleine n'est pas chassée sauvagement et ne se fait qu'une fois par an. Chaque année, les baleines migrent entre les océans Indien et Pacifique entre mai et octobre, lorsque des animaux marins géants traverse la mer Savu, juste en face de l'entrée de l'île Lembata. Pour Lembata, la chasse à la baleine commence le 1er mai et culmine en juillet. Lorsque la chasse à la baleine est décidée, un certain nombre de navires sur la rive sont libérés de leur modeste abri, alimentés par le village entier et l'entourage du navire naviguera ensemble pour capturer leur récolte. Pas n'importe quelle chasse, parce que la chasse n'utilise pas de filet, de pêche ou de bombe à poisson. Les pêcheurs à la Malera n'utilisent que des lances comme armes de chasse en pleine mer. On dit que la tradition de la chasse à la baleine avec un outil traditionnel appelé tempuling a duré longtemps, puisque les ancêtres de la tribu La Malera occupe la terre de l'Ombelin. Diverses sources mentionnent ce genre de tradition qui aurait existé depuis le XVIe siècle. Palédang est le nom d'un bateau utilisé pour la chasse et il est fait en bois. La personne en charge du piercing la baleine est appelée Lama Fa. Cet homme se tient à la fin d'un bateau, la poupe ou l'arc. Lorsque la baleine chassée a commencé à apparaître, Lama Fa a agi à la recherche d'une chance de siffler tempuling sur le corps de la baleine. Au lieu de simplement poignarder le corps de la baleine, Lama Fa a même sauté dans le corps de la baleine tout en tenant le tempuling et en pleine vigueur a poignardé tempuling dans le corps du poisson géant. La lutte contre la baleine n'est pas toujours aussi chanceuse. Parfois, les pêcheurs connaissent également la malchance. Parfois, leurs bateaux sont traînés dans la mer de Kupang, même dans la mer australienne, parce que le poisson harpé est blessé et essaie de s'échapper. En effet, il y en a, eux, beaucoup qui protestent fortement contre cette tradition. Mais avec l'habileté du chasseur, ils assurent qu'ils savent avec la baleine d'être chassés. Ils ne chassent pas les petites baleines ou les baleines qui sont enceintes. Le gouvernement a enfin fait de cette tradition l'un des aimants attirant l'arrivée des touristes. Chers amis, c'était l'Indonésie en couleur. Nous vous rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Couleurs du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le programme musical. Vous pouvez écouter nos émissions sur la fréquence de 9525 kHz ou en streaming de www.voi.co.id. Vous pouvez également écouter nos émissions par l'application sur RRI Play. Chers amis, pour cette édition, je présenterai des chansons pop chantées par groupe de musique Project Pop. Bon, on va écouter la première chanson intitulée « À cause de Kahitna ».
Cinta. sakit hampir insomnia. Gara-gara kahitna kau jadi kasih tercinta. Andaikan dia tahu tentang diriku, aku punya hati juga kepadanya.
Merci d'écouter la voix d'Ironisie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, vous êtes en train d'écouter notre programme musical chanté par groupe de musique Project Pop. Project Pop existe dans la musique presque deux décennies depuis le début de leur carrière jusqu'à maintenant. Ils ont sorti 10 albums. Leur 10e album intitulé Move On a été lancé le 25 février 2015. Ce groupe provient de Bandung, Jawa West, composé de 5 personnes telles que Yoshi, Oon, Odi, Ujo, Tika et Gugum. Le groupe de musique Project Pop est célébré pour les paroles des chansons drôles. Ils ont prouvé que la musique avec des paroles drôles peut être acceptée par la société. Et la chanson que vous venez d'entendre, à cause de Kahitna, est l'une des chansons célébrées dans l'album Move On. Bon, chers amis, écoutons maintenant d'autres chansons de Project Pop intitulées Pourquoi, pourquoi? Merci d'écouter la voix d'Ironésie diffusée depuis Jakarta. C'était une chanson du groupe de musique Project Pop intitulée Pourquoi, pourquoi. Cette musique avec le rythme d'Andot Koplo et la proposition de Ujo en tant que la musique de danse électro à la indonésien. Project Pop a choisi ce genre parce que électro dance musique est assez populaire au monde, y compris en Indonésie. Cette chanson est aussi influencée par la musique de Java West avec La Flûte de Sunda. Bon, chers amis, écoutez maintenant les deux dernières chansons de Project Pop, intitulées Move On et Ami, mais souhaité. Merci à tous et à bientôt.
Harus terpisah punya si cakrakan. Kau putuskan aku lihat statusku jadi goodbye pacar sialan. Cukup hanya dalam satu malam ku dalam penyesalan. Kenapa dulu ku bisa sungguh percaya aku separuhnya kamu. Aku takkan jadi butiran debu jika tersesat kehilangan arah. Aku kan bisa bertanya. Oh, we gotta move on. Hatikanlah hanya bikin orang blow on. Oh, we gotta move on.
Toujours avec la voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par internet sur le site www.voi.co.id.
dengarlah yang akan aku katakan.
Apa tuh?
Tentang dirimu setelah selama ini. Ternyata kepalamu akan selalu botak. Eh, kamu kaya gorila. Ketika kesepian menyerang diriku, gak enak badan resah gak menentu. Ku tahu satu cara sembuhkan diriku, ingat teman-temanku. Don't you worry, just be happy. Temanmu di sini.
Kamu sangat berat.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie. Sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'internet sur www.voi.co.id.
yang sangat menyenangkan bagiku. Saat ku harus bersabar dan terus bersabar menantikan kehadiran dirimu. Entah sampai kapan aku harus menunggu. Sesuatu yang sangat sulit tuh ku jalani. Hidup dalam kesendirian sepi tanpamu. Kadang ku berpikir cari penggantimu saat kau jauh di sana. Selalu dekat. Bila kau ingin pejamkan matamu dan rasakan aku, kekuatan cinta kita takkan pernah rapuh. Terhapus ruang dan waktu. Percayakan kesetiaan ini pada ketulusan I si teri. Gelisah sesaat saja tiada kabarmu ku curiga. Yang ku takkan sia-sia dan berikan satu jawaban pasti. Entah sampai kapan aku harus bertahan. Saat kau jauh di sana rasa cemburu merasuk ke dalam pikiranku melayang. Tak tentu ada tentang dirimu. Apakah sama yang kau rasakan? Kekuatan cinta kita takkan pernah rapuh. Terhapus ruang dan waktu. Percayakan kesetiaan ini pada ketulusan I si teri. Saat ku sendiri pikiran melayang terbang. Perasaan resah gelisah. Jalani kenyataan hidup tanpa gairah. Segala obsesi dan ambisimu, akhiri semuanya cukup sampai di sini dan buktikan pengorbanan cintamu untukku. Ku mohon kau kembali.
Thank you.
Radio Republik Indonesia, Service Internasional, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio Republik Indonesia, Service Internasional, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à Émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5 Jakarta ou PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.